Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir Astrid von Busekist. Astrid, qui est professeure de théorie politique et dirige le master de théorie politique à Sciences Po. Elle est aussi l'éditrice en chef de Raison politique. Alors, on la reçoit aujourd'hui pour nous parler de son nouveau livre, La religion au tribunal, paru chez Albin Michel, qui évoque donc la séparation de la religion dans le domaine du droit et au tribunal. Bonsoir Astrid.
Bonsoir, merci de me recevoir.
Merci de nous donner cette interview sur les ondes de Cannes en français. Alors Astrid, un mot, 1905, une séparation qui a donné naissance à un principe si particulier à la France, la laïcité. Cette séparation est-elle hermétique?
J'essaye de montrer que non, justement, à l'aide des exemples que je discute dans mon livre, j'essaye de dire que la relation entre le politique et la religion n'est d'abord pas stable et qu'il n'y a pas de règle a priori, que la frontière disons, du licite, du tolérable, de l'accommodement ou non se décide plutôt pragmatiquement, au cas par cas, selon les enjeux ou selon les menaces perçues. C'est-à-dire que la séparation ou le mur de séparation, comme disent les Américains, est fragile d'une certaine manière, c'est en tout cas pas un principe de premier ordre. C'est un principe plutôt de second ordre qui sert à protéger d'autres valeurs fondamentales comme la liberté et l'égalité. Et d'ailleurs, historiquement, la logique de la protection à la fois de l'État et de la religion, qui est issue des guerres de religion et du libéralisme, exige qu'il y ait une interaction. Hein, c'est la protection exige que le juge, pour décider si telle pratique est licite ou non, il faut bien qu'il sache s'il s'agit d'une pratique religieuse ou non. Donc il faut qu'il ait un certain savoir sur qu'est la religion. Donc ce n'est pas une théorie, le sécularisme ou la laïcité, ce n'est pas un concept épais, mais c'est plutôt une pratique. Et en France, je dirais que c'est la liberté de religion fait partie de notre liberté de penser. Et comme le disent les juristes, c'est plutôt une sous-catégorie de la liberté d'opinion, rien de plus, rien de moins, je dirais.
Alors, dans votre livre, vous parlez aussi de ce concept de délibéralisme qui semble jouer un rôle très très important. Pourriez-vous expliquer en quoi consiste cette doctrine de la juste mesure et comment est-elle appliquée dans le contexte des interactions entre le civil et le religieux?
Merci de me poser cette question. C'est le terme que j'ai trouvé qui n'est pas un privatif, hein, ce n'est pas le délibéralisme, qui traduit à la fois la faculté de délibérer dans les cours de justice, hein, et qui renvoie à la rencontre entre la démocratie et le libéralisme. Pour le dire un peu plus concrètement, il y a toujours des tensions entre nos obligations morales en tant qu'individu et nos obligations citoyennes en tant que membres d'une société politique. Et entre les deux, il faut quelquefois faire des compromis. Donc, c'est une doctrine, comme vous dites, de la juste mesure entre l'égalité et la liberté, mais c'est aussi une doctrine de l'imperfection qui renvoie à ce que je disais un peu plus tôt, c'est-à-dire il faut faire des compromis pragmatiques ou plus exactement prendre des décisions pragmatiques et politiques selon les enjeux que pose la religion. La religion ne pose pas toujours les mêmes enjeux et la même menace, disons, pour la citoyenneté démocratique. Donc c'est un principe aussi de, disons, de non-nuisance, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de nuire à d'autres individus ou de les empêcher de nous nuire par leurs pratiques religieuses, par exemple, comme dans le libéralisme classique, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres, mais c'est aussi un principe un peu plus épais, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus nuire à ce qui garantit la vie collective en démocratie. Et la vie collective ne concerne pas seulement la vie citoyenne de chacun de nous, mais aussi des groupes, éventuellement, des groupes religieux, des minorités religieuses au sein du contrat démocratique. Donc, le mérite respectif, disons, de la liberté des uns et des autres et des groupes, me semble-t-il, est toujours contextuel et doit être évalué, pardon, au cas par cas.
Alors merci beaucoup pour cette réponse très détaillée. Alors, pouvez-vous justement nous expliquer comment vous êtes arrivé à l'idée de ce livre? Qu'est-ce qui vous a motivé à explorer la relation entre le politique et les religieux?
Oui, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que mon précédent livre portait, enfin celui d'avant-avant, portait sur le Hérouve et sur les différentes controverses autour de l'Hérouve et sur la manière dont on pouvait privatiser religieusement une portion de l'espace public, ce qui, dans les pays de la diaspora, pose de véritables problèmes à la fois moraux et juridiques. Et ici, je me suis laissée dicter mon livre un peu par des cas réels. Mes différents scénarios sont issus de controverses particulières et il me semble que l'avantage d'avoir travailler sur des faits empiriques réels, c'est-à-dire des jugements devant les tribunaux, m'a permis de montrer qu'il y a un précipité de relations entre l'État, la justice, la vie parlementaire et la religion. C'est-à-dire il y a des cas où la séparation stricte, vous posiez la question tout à l'heure, est oui. tout à fait justifiée et légitime. Il y a des cas où il faut faire des compromis, comme dans le cas de la circoncision, par exemple, qui s'est posée en Allemagne à la fois pour la communauté juive et pour la communauté musulmane. Et il y a des cas de composition ou de coopération même, d'interlégalité, où les communautés religieuses et l'État où la justice peuvent coopérer, comme dans le cas du GET, dans les pays de common law aux États-Unis, en Angleterre, en Afrique du Sud et ailleurs, où il y a une véritable coopération entre les experts, si je puis dire, des deux côtés, c'est-à-dire les juristes civils d'un côté et les représentants des communautés rabbiniques, des tribunaux rabbiniques de l'autre. Donc, vous voyez, ça m'a permis de prendre ces trois scénarios-là, qui sont des faits réels, m'a permis de montrer justement à quel point, selon le contexte et selon l'enjeu, dans le dernier cas, dans celui du GET, par exemple, l'enjeu est évidemment l'égalité citoyenne, l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors, comment faire pour que la religion ne soit pas préjudiciable à la moitié des citoyens, à savoir les citoyennes qui restent enchaînées par le guet à leur mariage lorsqu'elles ne le veulent plus, voyez.
Alors, le titre de votre livre, La religion au tribunal, est très évocateur. Pourriez-vous nous en dire plus sur le choix de ce titre et sur la signification qu'il revêt pour vous?
Oui, volontiers. Le livre s'appelle La religion au tribunal, non pas parce que je traduis les religions devant un tribunal imaginaire, mais parce que je pense que les cas juridiques sont d'excellents terrains de jeu pour le philosophe, si vous voulez. C'est là où on peut faire de la théorie pratique. On manie, en tant que philosophe, de grandes notions abstraites, liberté, égalité, autonomie, tolérance, etc., etc. Mais ces notions sont appliquées dans les décisions de justice et justement qualifiées, évaluées dans un contexte particulier. Donc, c'est à la fois la délibération des juges et leur réception sociale, parce qu'il y a aussi un extérieur aux tribunaux que je discute, éclaire finalement notre rapport aux pratiques religieuses, mais aussi aux contraintes qu'elles imposent à l'État, aux citoyens, aux croyants. Donc, ça permet de voir comment les juges bricolent, et le bricolage est évidemment une activité noble, il s'agit d'interpréter la loi dans le cadre d'une grammaire culturelle précise, le droit, et ça permet de voir aussi comment ces décisions sont reçues par les polémistes ou par la société, par les médias, par la société civile en général. Donc c'est un terrain magnifique parce qu'il est à la fois pratique, parce que les juges doivent décider in fine, c'est-à-dire c'est pas comme nous autres philosophes qui pouvons dire ah bah, peut-être bien oui, peut-être bien non, 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 le juge, il doit prononcer un jugement. Donc, on voit le cheminement, surtout dans les pays, évidemment, de common law, où les jugements et les décisions sont très longues, comment les juges, finalement, mais vraiment par un travail philosophique, arrivent à justifier leur décision. C'est très intéressant pour le philosophe.
Alors, impossible de parler du lien entre la religion et l'État en Israël sans parler du statu quo et des tensions que cela suscite au sein de la société israélienne, surtout en ce moment avec la loi de l'engagement des étudiants de yeshiva, donc d'institutions religieuses. Qu'en pensez-vous?
Écoutez, je pense que bon, d'abord, j'espère que cette loi sera appliquée. J'espère aussi qu'elle fera trembler le gouvernement. Et s'il pouvait le faire tomber, j'en serais très heureuse. Bien, mais ça, c'est mon avis personnel. Dans mon livre, je discute de ça sous l'angle du pluralisme légal. En Israël, on connaît bien ça. Il y a un double circuit légal, n'est-ce pas? Le circuit rabbinique et le circuit civil. Ça existe ailleurs, c'est un héritage du millet ottoman. Exactement. Et ça veut tout simplement dire qu'on accepte la coexistence de plusieurs ordres légaux concurrents, n'est-ce pas? Mais c'est prendre le risque que l'organisation interne des groupes autonomes ou semi-autonomes ne respecte pas les règles de l'égalité démocratique, ce qui est exactement le cas ici. Donc la question est quel est le seuil? C'est-à-dire quel est le seuil de tolérance des États démocratiques vis-à-vis des ordres nomiques, comme on dit en philosophie, qui soit lui font concurrence, soit existent en leur sein? Et on sait bien que la démocratie libérale a un problème avec le collectif dans le collectif, n'est-ce pas? Et le
Bien
républicanisme
sûr.
encore plus, où il n'existe que des citoyens tous égaux. Donc le principal clivage pour moi, me semble-t-il, c'est quel est le rôle de l'État démocratique souverain face à une autorité juridictionnelle autonome ou quasi-autonome qui lui fait face lorsque ça clash? Alors, est-ce qu'on peut appliquer des règles de délibéralisme dans ce cas? Je veux être optimiste et penser que oui, je pense que ce pays gagnerait sans doute à, comment dirais-je, à développer des espaces de parole qui ne soient pas les circuits classiques, la Knesset ou les circuits polémiques, mais qui soient des forums à la lumière un peu de ce qui se fait aux États-Unis autour du GATT, des forums de dialogue qui pourraient décanter la situation et produire un compromis, parce que c'est ça qu'on veut en tant que démocrate, n'est-ce pas, qu'il y ait un
Bien
compromis et
sûr.
non pas une décision autoritaire à laquelle les uns se
Bien sûr.
soumettent et que les autres dictent. Donc, je répondrai ça.
Écoutez, merci beaucoup, professeur Astrid von Bucekist, pour cette interview extrêmement riche et intéressante. On espère vous recevoir de nouveau très bientôt pour une nouvelle interview sur les ondes de Cannes en français. Je vous souhaite beaucoup de réussite pour la parution de votre livre et je vous souhaite de passer une
Merci
bonne
beaucoup.
soirée.